Bonjour à tous et bienvenue à vous qui écoutez le podcast « J'ai un truc à te montrer ». Aujourd'hui, on va vous parler de cinéma de genre et de films d'horreur. Qu'est-ce que le elevated horror? Ce genre rabat-il les cartes du cinéma d'horreur? Qui en sont les instigateurs et qu'est-ce que ça vaut vraiment? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, je suis accompagnée de nouveau par Arnold. Salut,
salut
Arnold.
Salut tout le monde.
Alors, sachant que moi que j'ai une définition après sur laquelle on peut se rattraper, mais ça m'intéresse un petit peu, le sujet du jour c'est le elevated horror. C'est quoi pour toi?
Alors ça, il va vraiment falloir que tu me le définisses, elevated horror, parce que quand tu me parles d'elevated horror, moi je vois tout de suite des films avec une mise en scène hyper léchée, avec de la lumière hyper léchée, typiquement, et une ambiance vraiment particulièrement lourde qu'on retrouve... J'ai un petit peu de mal à dire, donc vraiment là, je te donne mon ressenti hein, sur ce qu'on appelle l'elevated horror. Donc avec une ambiance particulièrement lourde, souvent un peu claustrophobique. Mais sinon, à part mon ressenti, j'aurais bien du mal à définir ce que c'est.
Ouais. Donc sur ton... Oui, en tout cas, ce que ça t'évoque, c'est que sur la forme, c'est très léché. C'est plus léché que les autres films.
Oui, on retrouve pas ce côté parfois un petit peu carnaval, maison hantée de fête foraine que tu peux avoir dans les autres films d'horreur. Même si le film d'horreur est bon, hein, mais je veux dire, on reprend La Dame en Noir, mon film d'horreur favori. Il y a quand même un côté carnaval. Au bout d'un moment, il y a des monstres un peu partout, il y a des zombies, des machins qui finissent par apparaître. C'est bien fait, mais ça reste quand même carnaval. Mais voilà, je dirais que c'est ça, mais alors je pense que c'est pas du tout une définition pertinente que j'ai donnée, c'est mon ressenti.
Il y a des éléments. Alors le elevated horror, c'est un genre bien à part dans un cinéma, comme je disais, qui est ultra codifié. Le cinéma d'horreur, par essence, c'est codifié. On en a parlé dans notre premier épisode, quand on parlait des slashers, où il y a une trame narrative, des arcs, etc. Le cinéma d'horreur comporte de nombreux genres. Parmi les plus connus, on peut citer donc les slashers, le home invasion, le found footage, les maisons hantées, les exorcismes, bref, tout un tas de joyeusetés qui ont leurs propres archétypes, schémas narratifs précis et effets visuels propres à chacun. Parfois, les genres s'entremêlent pour créer des œuvres hybrides, et c'est un peu le cas du elevated horror. En fait, de reprendre les codes d'autres genres, de les modifier, les adapter et les renouveler. On a ça dans le elevated horror. Mais ce qu'on a aussi, et surtout, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle le art horror. Et les films de art horror ont tendance à s'appuyer sur la construction d'une atmosphère. Donc c'est ce que tu disais, une atmosphère lourde.
Okay.
Le développement des personnages, le style cinématographique, c'est ce que tu disais, il y a un style un peu plus assumé. Et des thèmes philosophiques pour créer de l'effet, donc notamment pour faire peur, plutôt que des manières plus frontales pour créer de l'effroi, comme par exemple des jumpscares, tu vois. C'est un cinéma qui vise à provoquer la peur chez le spectateur d'une manière inattendue, mais cherche également à le questionner. Souvent, t'as des thèmes de société derrière.
Ouais.
C'est pas que une famille qui souffre. Enfin, il y a des choses...
Et c'est des thèmes qui sont pas trop... Ils sont pas trop foutus au forceps. Je trouve.
Oui, bah c'est beaucoup plus... C'est subtil. C'est un cinéma subtil.
Ouais, un petit peu.
Généralement, c'est décrit comme artsy, donc artistique, expérimental et métaphorique. Cet épisode, ça va être un petit guide du elevated horror. Donc, par où commencer quand on s'intéresse à ce genre, quel film voir, qui sont les pontes du milieu. On va vous expliquer tout ça. On va ne pas spoiler, contrairement aux autres épisodes de J'ai un truc à te montrer.
Ah,
on
ça va être
spoil,
dur.
En tout cas, on va essayer le moins possible pour vous donner envie de voir les films sans tout vous dire. Je précise juste en début d'épisode, non, je ne vais pas parler de Ari Aster. Parce que je garde ce réalisateur et ses films, donc c'est du elevated horror, pour un autre épisode où tu seras mon invité, mais on garde la surprise.
Ok, cool.
Ok, bon, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur l'elevated horror?
J'aime bien, mais ça me fait pas peur du tout.
Ah bon? Bah ça, on va...
Ça ne me fait quasiment pas ressentir de peur. Ça me fait ressentir plus de la pression, une espèce de stress, de claustrophobie. Donc je sais pas trop si j'appellerais ça de la peur.
Ok.
Mais en tout cas, ça reste délicieusement désagréable comme sentiment.
D'accord. Bah alors moi j'ai mis pour chaque film une échelle de la frousse sur 10. Et pour le coup, il y en a qui m'ont fait vraiment très très peur.
Ok.
Alors on va commencer avec le premier film dont je me rappelle, qui est sorti en 2014 et à l'époque je me suis dit « Ah, c'est différent, un petit peu ». C'est « It Follows ». Donc un film américain sorti en 2014, écrit et réalisé par David Robert Mitchell, à qui on doit plus tard le film très étrange Under the Silver Lake. Je sais pas si on l'a vu.
Si, on l'avait vu.
Avec Andrew Garfield.
Ouais, c'était pas mal.
Donc le film est avec Micah Monroe. Est-ce que tu te souviens de l'histoire?
Alors on est en sans spoiler précisément, donc je vais essayer de pas trop en dire, mais en gros on est sur une héroïne qui est en fin d'adolescence, elle doit avoir 17-18 ans, quelque chose
non,
comme ça.
Non même pas, ouais je dirais qu'elle a 16 ans.
Quelque chose comme ça, ouais 16 ans, enfin, bref. Une adolescente qui, après avoir rencontré un garçon, se trouve atteinte d'une malédiction, si je puis dire, avec une créature qui la suit lentement, en permanence.
C'est ça.
Et donc on va essayer de voir comment se débarrasser de cette créature.
C'est ça. Elle est poursuivie par une entité surnaturelle après avoir eu un rapport sexuel.
Ouais.
It Follows, donc c'est un film qui, sur la forme, est très particulier. C'est très beau visuellement. Les cadres sont posés, les couleurs sont... C'est très esthétique. Y a une particularité dans cet univers, c'est que c'est des ados, mais ils n'ont pas de smartphone. Ils n'ont pas l'air d'avoir internet. Il y en a une, elle a une espèce de liseuse... trop bizarre, où c'est une espèce de boîte à... où ce serait un miroir, quoi, une boîte à maquillage, et en fait, elle lit des trucs bizarres dessus.
C'est
on
vrai,
suit
oui.
Ce groupe d'adolescents. C'est très flottant. Il y a pas mal de longs silences, de longs plans. Et évidemment, est évoqué un peu en sous-texte les maladies sexuellement transmissibles, puisque ça, c'est la première couche un peu de la narration, c'est que cette gamine, elle se retrouve à être poursuivie par cette entité après avoir couché pour la première fois avec un mec.
C'est marrant, moi j'y ai pas du tout vu les MST.
Tu voyais quoi?
J'y voyais plutôt une espèce de pression sociale parce que vraiment c'est ce truc qui te poursuit en absolue permanence et tu sais pas pourquoi, mais peut-être plutôt une pression sociale de la sexualité chez les ados avec des discours du type ah bah elle a couché avec machin donc c'est une salope donc je sais pas quoi, enfin ce genre de truc. Moi j'avais plutôt vu ça.
Ouais, de la pression à l'injonction au sexe et au slut shaming.
Ouais, un petit peu.
C'est
un
possible.
Petit peu. Plutôt ça. Alors j'ignore en 2014 si les adolescents pensaient encore comme ça.
Ouais, ils pensent toujours
parce
comme
que ça.
Ça
évolue quand même assez vite, mais.
Non, ils pensent toujours comme ça.
Ouais, peut-être. Parce que, effectivement, quand j'étais ado, plutôt, je me souviens que les histoires de machin, elle a couché avec truc, et donc c'est une salope, donc c'est une fille facile, donc c'est des choses comme ça, il y en avait quand même beaucoup. Beaucoup trop, au collège et au lycée.
En fait,
et donc, moi, ça m'a fait penser à ce truc-là, d'avoir le monstre, l'entité en question. Moi, je le voyais peut-être plutôt comme une réputation. Mais après, bon, il y a peut-être un autre sous-texte.
Je pense qu'il y en a
peut-être
beaucoup.
Qu'il n'y en a pas.
Je pense qu'il y en a beaucoup, en fait. Je pense que,
moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça.
Mais ouais. C'est des films qui sont, de toute manière, faits pour être ouverts à l'interprétation. Je pense que c'est des films où tu peux avoir plein d'analyses différentes et elles sont plus riches les unes que les autres. Et ça, comment dire, ça dépend aussi de la personne et de ce qu'elle va ressentir en regardant le film. Mais c'est vrai que cette créature donc surnaturelle, en fait, quand il couche avec elle, ensuite il l'attache à une chaise dans un bâtiment désaffecté. Là, on est vraiment au début du film. Et en fait, il lui explique les règles. Il lui dit, voilà, on a couché ensemble. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire suivre par une créature. Et qu'en aucun cas, il faut qu'elle se rapproche de toi et qu'elle te touche.
Ouais.
Donc en fait, il va falloir que tu fuis toute ta vie, quoi. Et il lui explique, cette créature, elle va faire exprès de prendre des formes diverses et variées pour te faire peur, pour te mettre mal à l'aise, et pour te torturer, en fait. T'as vraiment cette idée de la... Comment dire ? De la torture psychologique que c'est de se savoir poursuivi tout le temps. Du coup, nous, on se pose des questions de, bah oui, mais est-ce que si tu prends l'avion et que tu vas sur un autre continent, est-ce que du coup, la créature, elle va marcher sur le fond de l'océan, tu vois ?
Alors, j'avais regardé une vidéo de théorie d'un youtubeur américain assez connu qui fait des game theory, des film theory, des choses comme ça, et donc qui lui avait mis en place tout un système pour effectivement ne jamais te soucier de cette créature qui marche quand même assez lentement, faut le dire,
ouais.
Et qui est assez inarrêtable. Enfin bref, bon, mais effectivement, ça voulait dire de travailler 6 mois de l'année à Singapour et 6 mois de l'année à Chicago, quoi, ou un truc du genre.
Ouais, c'est ça, ouais, comme ça au moins t'es tout le temps tranquille, quoi. Donc du coup, alors c'est un film moi qui a pu me faire peur. Hein. Il y a des moments qui me restent très en tête, notamment en fait c'est du body horror un peu avec la créature.
Ouais, beaucoup. Ouais.
Des effets voilà bien ménagés. On va suivre ce groupe d'ados. Il y a pas vraiment d'adultes dans ce film qui vont
non,
essayer.
Non, aucun moment.
Ils sont très abandonnés quoi ces gamins. Ils font très livrés à eux-mêmes.
Oui, en même temps, ils n'ont pas l'air d'être maltraités ou
non.
quoi, mais on sent que le film a volontairement voulu virer les adultes.
Ouais.
Virer les adultes
un
du
petit
film.
Un petit peu, ouais. Et alors, sur l'échelle de la frousse, toi, tu lui mettrais combien sur 10 ?
Sur 10, ça, je mettrais quand même un petit 4. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas fait peur à proprement parler, mais il y a quand même effectivement un côté un peu body horror avec cette créature. Et il y a ce côté de... le film est stressant parce que à chaque fois que tu vois les personnages, à chaque fois qu'il y a un plan en fait, pour peu qu'il y ait des gens en arrière-plan, bah tu sais jamais trop si c'est la créature ou pas. Alors parfois c'est évident que c'est la créature parce que c'est, j'en sais rien, moi une vieille dame à poil à moitié en train de se pisser dessus. Bon, il y a des moments où c'est assez évident, mais il y a beaucoup de moments où la créature est pas du tout évidente, juste quelqu'un à peu près normal, juste qui marche toujours de manière un peu étrange, un peu robotique. Mais quand tu as de l'arrière-plan, des gens en arrière-plan, tu sais jamais trop qui peut être la créature ou pas. Et donc ce côté-là, moi je l'ai trouvé assez angoissant. Et puis effectivement, parfois la créature, elle prend des formes un peu flippantes quand même.
Ah oui, oui, ça fait vraiment baler.
Donc ouais, si, il a réussi à quand même me foutre pas mal mal à l'aise.
Moi, il m'a fait plus peur que toi, je pense. Il y a vraiment des scènes où j'étais vraiment pas bien. Même si c'est pas un des films qui m'a fait le plus peur, clairement. Mais je lui mettrais un bon 6 sur 10 quand même. Tu vois,
ah, quand même.
Pour les effets de la créature, pour l'ambiance en général.
Mais alors attends, comment est-ce qu'on établit cette échelle ? Parce que 10 sur 10, ça veut dire que tu dors pas pendant 2 semaines.
Ouais.
1 sur 10, ça veut dire que tu rigoles pendant le film ?
Ouais, on va dire
okay.
ça.
Et 5 sur 10 ?
C'est un petit peu de moyenne frousse.
Tu mets une petite lumière la nuit.
Non.
Non.
Non, tu commences à mettre la lumière à partir de 7. 7
à 8. Partir de 7, tu
ouais,
mets la lumière.
Tu
okay.
commences à
ouais, ça
pas...
me semble pas mal.
C'est pas mal. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur It Follows ?
C'est très difficile de parler de ce film sans spoiler, j'avoue.
Mais ça va être dur de parler de tous les films.
Ouais, ça va être compliqué, mais il y a pas mal de scènes, moi, qui m'ont beaucoup marqué, dont je ne peux pas vraiment parler. Parce
ah oui,
que...
parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la créature, elle est invisible
aux yeux des autres. Ouais,
du coup, ça crée des mises en scène assez particulières.
Ouais. Mais il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, je ne veux pas spoiler, surtout que c'est des choses que les personnages apprennent. Il y a un petit côté un petit peu Scooby-Doo.
Oui, parce qu'ils essayent d'enquêter. Pour savoir d'où
ouais,
vient.
Parce qu'ils enquêtent, mais ils enquêtent un peu comme dans Scooby-Doo, de manière un petit peu candide, un peu, voilà, ils tentent des trucs. C'est jamais rendu comique, c'est jamais drôle.
Non.
Il n'y a pas de volonté à ce que ce soit drôle
c'est
ou quoi.
C'est assez mélancolique comme film. Hein. Ils parlent doucement, ils ont l'air tous désabusés.
Ouais, ils ont tous l'air un peu tristes, ouais. Mais ce côté un peu Scooby-Doo, moi, il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça vraiment
bande
sympa.
Bande d'ados qui essayent de résoudre une énigme, quoi.
Ouais, et ça, j'ai trouvé ça très cool. Mais sinon, non, pas grand-chose de plus à dire.
On peut passer au suivant.
Allez.
Alors, celui-là, sur le froussomètre, personnellement, il est très très haut. On l'a vu ensemble.
Ouais.
C'est un film sorti en 2014 également, comme It Follows, par la réalisatrice australienne Jennifer Kent. C'était son premier film qu'elle a également écrit et qui était basé sur son court-métrage datant de 2005 appelé Monster.
Okay.
Donc vous allez le voir dans le Elevated Horror, ce qui revient à chaque fois, c'est que le réalisateur ou la réalisatrice a également, à minima, écrit l'histoire et la produit en plus. Donc c'est des œuvres qui sont assez intimes pour les artistes et très maîtrisées pour le coup artistiquement. Et il y a un petit côté aussi indé quoi. C'est la personne elle a fait tout toute seule quoi. Et c'est ça aussi qui donne sa patte un peu edgy, indé, A24, Elevated Horror. Vous voyez.
Moi je trouve pas trop. Mais je sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus. Mais
sur quoi?
Sur le côté indé, moi j'ai un petit peu de mal quand on qualifie une œuvre d'indé.
Bah c'est qu'elle est pas chère, elle est pas chère, elle est un peu fauchée et t'as une énorme liberté créative.
Ouais, mais c'est vrai que tu sens que effectivement que les réals écrivent et tournent le film, ça marche bien. Ça marche bien parce que effectivement tu sens que la mise en scène, elle doit être pensée exactement comme en parallèle du scénario.
Ah, mais c'est une vision.
Les deux se servent très très bien l'un l'autre, je trouve, globalement, qu'on voit vraiment pas dans tous les films et qu'on voit pas du tout dans les films d'horreur de manière un peu générale.
De manière générale.
Ouais.
Bon, pour revenir au Babadook,
pardon,
tu te rappelles de l'histoire ou pas?
Ah, le Babadook.
Le Babadook.
Ah, c'était trop bien, le Babadook. Ouais.
Gros trauma. Moi, c'est un
gros trauma.
C'est un des plus gros traumas d'horreur.
Vraiment fucking flippant, le Babadook. Babadook, donc ouais, le film australien. Écoute, c'est l'histoire d'une mère célibataire.
Veuve.
Veuve. Bon, techniquement célibataire du coup, mais enfin bref, veuve.
Ouais, mais c'est important qu'elle soit veuve.
Ouais, qui a un enfant un peu difficile, qui a l'air d'avoir peut-être des problèmes un petit peu psychologiques.
Il a des troubles du comportement.
Voilà. Et un jour, la maman trouve une espèce de petit livre pour enfants.
Sachant qu'elle, elle écrit et réalise des livres pour enfants, cette mère.
Ah, j'avais oublié, mais ouais. Et donc, elle trouve un bouquin, un jour. On sait pas d'où il vient.
Genre, il apparaît dans leur maison.
Exactement. Bouquin qui s'appelle Babadook. Et donc, qui est une histoire un petit peu d'horreur pour faire un peu peur aux gamins. Sauf que c'est pas juste une histoire, a priori. Mmh.
Et du coup, la question, c'est... cet enfant est-il, enfin, a-t-il des troubles psychologiques, puisqu'il a des troubles du comportement, etc., sachant qu'on comprend que c'est assez traumatique, leur histoire à tous les deux,
ouais.
Même si on va pas spoiler. Est-ce que c'est réactionnel, du coup, à cette histoire familiale difficile, ou est-ce que cette famille est vraiment persécutée par cette entité surnaturelle? Pourquoi ça fait aussi peur, le Babadook?
Ah bah... Ah, pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, on va commencer par ce qui est de plus épidermique, mais pour moi, c'est clairement la réalisation. C'était incroyable.
Comment tu la qualifierais?
Alors déjà, il y a ce fameux côté claustrophobe.
Ça se passe beaucoup dans la maison.
Ça se passe beaucoup dans la maison. Tu sens que la maman, elle est en dépression.
Alors,
en fait.
Le jeu des acteurs, parce que du excellent. Coup, ça se passe beaucoup avec la mère et le fils, ils sont... extraordinaire.
Ouais, ouais,
ces deux acteurs
excellents.
Sont époustouflants.
Et vraiment, la mère, surtout, moi, m'a beaucoup marqué. Tu sens qu'elle est en dépression.
Elle est au bout de sa vie.
Elle est au bout de sa vie. Et vraiment, ça se voit sur son visage. Elle
son
est,
gamin lui pourrit la vie.
Exactement. Et elle est abattue, quoi. Elle a rien. Elle est coincée. Tu sens qu'elle est coincée avec son gamin. Ce qui est quand même triste à périr, mais d'un côté, elle est tellement épuisée, elle est coincée avec son gamin, coincée dans cette maison qui est toujours d'ailleurs assez sombre.
Oui, il y a beaucoup de clair-obscur,
ouais,
très
beaucoup,
peu de
beaucoup.
Couleurs dans ce film.
Effectivement, donc c'est vraiment tout ça peint un tableau dépressif, quoi. Vraiment très difficile.
Et assez oppressant.
Et très oppressant. Donc il y a ce côté-là, déjà, moi qui m'a foutu mal du début à la fin pendant tout le film. Après, il y a, on va dire, un petit peu plus la mise en scène plus classique, je veux dire, avec le Babadook, le monstre.
En fait, ce qui est très intéressant dans la mise en scène de ce monstre-là, c'est qu'il apparaît par toutes petites touches.
Ouais.
Et t'as ce truc des terreurs enfantines très concrètes de t'es enfant, t'es dans ta chambre, et t'as des ombres dans ta chambre. Par exemple, un pull sur une chaise.
Un porte-manteau.
Ouais. Quoi, et dans ta tête, ça devient un monstre. Et ça joue vraiment sur ces codes-là.
Énormément.
Et donc, du coup, t'as ces... C'est cette manière de montrer le monstre sans le montrer, en te faisant douter sur est-ce que c'était une hallucination, est-ce que c'est une déformation de la réalité, de manière très progressive jusqu'à ce que ça escalade. Et à chaque fois qu'on voit la créature ou qu'elle est suggérée, il y a un sound design.
Ah ouais.
Exceptionnel.
Incroyable.
Alors avec des bruits, je vais pas trop spoiler, mais vraiment, c'est extrêmement travaillé. Et moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est que je ressentais... dans mon corps, sous ma peau,
ouais.
La terreur pure de cette manière de suggérer le monstre et en même temps de te le faire entendre. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule.
Oui, bah moi aussi d'ailleurs, regarde, tu vois, j'ai la chair de poule.
C'est un des films qui m'a filé le plus la frousse dans ma vie. Et pour le coup, j'ai eu du mal à dormir pendant plusieurs jours après l'avoir vu. Je ne l'ai jamais revu.
Ah ouais.
Depuis les années 2010, quoi. Faudrait vraiment que je le revoie.
C'est vrai que moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'il est difficile. Hein.
Ah bah
franchement,
il est vraiment
difficile.
Super peur.
Il est vraiment flippant. Il y a un sous-texte.
Sur le deuil et le trauma.
Sur, exactement. Qui, je trouve, est très, très lisible. Oui. Enfin, c'est pas très fin de ce point de vue-là. Mais c'est ouais, pas plus mal en fait, moi je trouve ça très bien. Parce que comme ça, du coup, tu te tortures pas l'esprit à chercher un sous-texte. Le sous-texte, il est assez clair, je trouve.
Dès le début du film.
Voilà. Et donc, tu peux vraiment, t'es pleinement disponible pour que le Babadook vienne te hanter, toi, téléspectateur. Et vraiment, non, c'était vraiment excellent. Rien que de penser à certaines scènes, que je peux pas spoiler bien sûr, mais à certaines scènes, j'en ai le poil qui se hérisse à nouveau, quoi. C'était. Non, c'est très bon.
C'était son premier film à Jennifer Kent, hein, comme pour It Follows. C'est intéressant, on retrouve ça. C'est quand même une réalisatrice voilà, assez particulière, qui va dans des thèmes très difficiles, profonds, et qui aime à choquer ses spectateurs et à les traumatiser.
Et ça marche carrément bien avec le Babadook. Après, je ne sais plus qui était le... Alors, je ne sais plus si c'était un vidéaste qui parlait des premiers films. Ça doit être Karim Debbache, certainement. Qui parlait des premiers films des réalisateurs en disant que les premiers films des réalisateurs étaient toujours vraiment très représentatifs de leur style et de leur thème favori. Alors, je ne sais plus pourquoi il disait ça.
Alors ça, c'est, tu vois, pour... Alors ça, par exemple, quand tu me dis ça, moi, je pense tout de suite à David Fincher et à son premier film Alien 3. Et ouais. À quel point il a été broyé par le studio et par les producteurs. Et voilà, et qu'en fait, il n'aime pas ce film et il le rejette. Et c'est pour ça que moi, quand je te dis que le Elevated Horror, c'est du indé, parce que c'est d'accord. Leur premier film, mais c'est leur vision et c'est leur création et okay. Ils ont total contrôle dessus. Tandis que tu vois David Fincher, son premier film, finalement, il le conspue aujourd'hui. Et alors, bien sûr, c'est un film qui vient refléter le cinéma de David Fincher, mais qui lui a pas appartenu en entier. Okay. Et donc, c'est pas vraiment cette œuvre-là de l'artiste.
D'accord, ok. Bon.
Et du coup, tu parles. Oui, alors c'était pas Karim Debbache, je pense, qui disait ça sur les premiers films. À moins que ce soit dans Crust, peut-être, qui disait ça. Je sais pas.
Je sais plus, honnêtement. Ouais, je sais plus. Mais il me semble que c'est un vidéaste français, je crois, qui disait ça. Mais bon. Écoute, c'est pas hyper pertinent de toute
façon. De quoi ce que tu disais
sur, ouais, sur les premiers films.
Mais pourquoi si.
Bah, parce que je note que là, sur les deux premiers films dont on a parlé, d'Elevated Horror, ils ont tous les deux effectivement cette caractéristique d'être le premier film. Et donc, moi qui ai encore un petit peu de mal à capter la définition de Elevated Horror, j'essaie de sortir des caractéristiques.
Ouais, mais du coup, est-ce que pour toi, It Follows et le Babadook, par exemple, correspondent à ce que je t'ai présenté du Elevated Horror?
Ouais. Oui, pour
oui
le moment,
ça
ouais.
Rentre dans les catégories.
Oui.
Ok.
Non, mais je me doute bien que tu les as bien catégorisées, ça. Alors, ça, je te fais confiance, c'est sûr.
Maintenant, peut-être que je peux me tromper, je suis pas parfaite, même si je suis très proche de la perfection, mais... Alors, sur l'échelle de la frousse.
On avait dit que 7, c'était tu mettais une lumière.
Ouais.
Ah, je devais être à 6,9. Parce que j'ai pas mis de lumière, mais je me souviens m'être surpris à regarder un porte-manteau un peu bizarrement après avoir vu le film. Donc ouais, non, effectivement, il m'a bien fait flipper celui-là.
Ouais, moi j'ai mis 9 parce que à chaque fois que j'allais pisser la nuit pendant plusieurs jours, je sentais la peur dans mon corps, comme quand j'étais petite, tu vois, que j'avais 7-8 ans et que j'avais peur des monstres et que j'allais pisser dans ma maison, tu vois. Enfin, c'était vraiment la même.
Il y a beaucoup ce truc d'ailleurs dans Babadook parce que le fantôme il hante beaucoup la mer.
Le monstre,
surtout.
C'est un monstre.
Oui, le monstre il hante surtout la mer. Et donc il y a ce truc de la mer qui se retrouve confrontée à des peurs d'enfance quasiment. J'ai trouvé ça pas mal.
Ouais, et elle a vraiment réussi à capturer ça, hein, cette peur infantile.
Ah non mais de ouf.
Et ça c'est fort.
Vraiment, on a l'impression de redevenir des gamins quand on regarde ce film.
Un peu.
C'est trop bien. Regardez-le, enfin juste regardez-le quoi.
Bon, on va dire ça pour tous les films. Ok, on va passer au suivant. Alors celui-là, je pense que c'est un peu, peut-être que un peu plus controversé, mais c'est The Neon Demon, sorti en 2016, réalisé par Nicholas Winding Refn, le grand Nicholas Winding Refn, qui a réalisé notamment Drive, Only God Forgives, c'est un réalisateur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est avec Ellie Fanning, Keanu Reeves, Jenna Malone et Christina Hendricks.
Keanu Reeves dedans ?
Ouais, il y a Keanu Reeves dedans.
Je me souviens dans un pas rôle, du on l'a tout jamais de vu. Keanu Reeves dans Neon Demon.
Ah ben on l'a jamais vu jouer un rôle comme ça, pour le coup.
On l'a jamais vu jouer déjà, Keanu Reeves. Ouais, hot take. Oh, je sais qu'il est très populaire, mais vraiment, je trouve que c'est un très mauvais acteur, même si ça a l'air d'être un mec super.
C'est un bon cascadeur.
Ouais, ça par contre, bien sûr, ouais. Ouais, de ouf. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, t'inquiète, tu peux nous raconter l'histoire de Neon Demon ?
Neon Demon, alors ça fait longtemps que je l'ai vu, enfin qu'on l'a vu, on l'avait vu ensemble.
2016 au cinéma, ouais, je m'en rappelle.
Ouais.
Et d'ailleurs, en sortant de la salle, j'étais très très mal. Je m'en rappelle encore de ce que je ressentais. On était sortis de la salle et on était allés à ta moto. Et il fallait prendre la moto et je t'avais dit, attends deux secondes, je me sens pas très bien, enfin j'ai besoin de 5 minutes. Et
c'est vrai que toi, il t'a marqué.
On avait fumé une clope, ah bah, il est quand même ultra hardcore ce film, enfin...
Ah ouais, moi pas trop, tu vois, il m'avait pas plus marqué que ça.
Oh si, si, t'étais pas bien, mais t'étais moins...
Alors ouais, alors...
Bon, raconte l'histoire.
Oui, l'histoire. Difficile de la raconter sans spoiler, mais on va suivre l'histoire d'une nana qui, si je me souviens bien, essaie de se faire une place dans le domaine du mannequinat.
Ouais, c'est une jeune fille, elle a 17 ans, elle arrive de nulle part, à Los Angeles.
À Los Angeles, bien sûr, comme toujours. Et donc elle va essayer de se faire une place dans le mannequinat, et va se rendre compte, si je me souviens bien, que ça se fait pas comme ça.
Ça se fait pas comme ça. Voilà. Exactement.
Je vais essayer de pas spoiler. Je vais essayer de pas trop spoiler. Moi, le film, il m'a beaucoup marqué, notamment pour sa lumière.
Oh oui, mais les couleurs.
Et en fait, c'est. Je suis désolé parce que tu l'as beaucoup aimé, mais c'est la seule chose dont je me souviens vraiment du film, à part quelques plans qui étaient magnifiques. Mais globalement, la seule chose dont je me souviens, c'est la lumière, les couleurs, où c'était.
Extrêmement saturé.
Ouais.
C'est très esthétique. C'est de la pure esthétique de toute façon, Nicolas Winding Refn. Après, Nicolas Winding Refn, il aime bien jouer avec ses spectateurs, il aime bien les torturer, il aime bien faire des très longues séquences, beaucoup trop longues d'ailleurs.
Ah oui, non, mais d'ailleurs, quand tu regardes Drive, par exemple, ça a été une torture du début à la fin.
Oui, mais parce que t'aimes pas Ryan Gosling aussi.
Oui, et puis parce que j'ai pas aimé Drive tout court.
C'est un film un peu trop overhypé, je suis d'accord. Il est pas si extraordinaire.
Merci. Il est chiant ce film. Bref, c'est pas la question.
2 heures de perdu avec un super épisode dessus.
Oui, avec le crabe. Oui. D'ailleurs, je me souviens du film que parce que l'épisode de 2 heures de perdu est vraiment cool. Mais voilà, je me souviens vaguement être sorti de Drive en me disant bon Dieu, ce que je me suis fait chier.
Du coup, The New Demon, non, t'inquiète, reprend cette esthétique, voilà. Donc, on est sur des couleurs primaires, donc il y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu et beaucoup de violet.
Oui.
Après, d'un point de vue filmique et technique, c'est superbe.
Enfin, c'est absolument magnifique, ouais.
Honnêtement, c'est ça, difficile de faire mieux, je pense. Et pour le coup, on est vraiment sur un registre horrifique. Sans spoiler, on va avoir des éléments de gore. Des thèmes plus ou moins difficiles en fonction de vos sensibilités. Moi, je sais que j'avais une amie, ça l'avait traumatisé, ce film.
Ah ouais ?
Ouais, à chaque fois qu'elle en parlait, elle se mettait à pleurer. Parce que c'était vraiment très, très... Bah, c'est quand même hardcore. Il y a des scènes frontales, crues, de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, qui sont peu conventionnelles, qui évoquent des peurs, pour le coup, très archaïques.
Oui, effectivement, c'était très primaire, très primal.
Très
primaire.
Ouais.
Moi, je sais plus comment dire.
Je sais pas comment dire.
Reptilien.
C'est ça. Après, il y a aussi la musique de Cliff Martinez qui est cultissime.
Oui.
C'est un film hypnotique où la forme est très investie, comme on l'a dit. Pour moi, c'est du elevated horror parce que ça reprend les codes du film d'horreur tout en les cassant et en les remodelant.
Dis-moi en plus.
Après, ça va être compliqué sans spoiler.
Bah ouais.
Mais ça va reprendre... Alors, comment Winding Refn te fait peur dans le film ? Il y a notamment une scène, moi, qui m'a absolument terrifiée et glacée, où tout se passe en hors-champ. Et en fait, c'est le personnage de cette jeune fille, Ellie Fanning, qui est dans sa chambre d'hôtel. Bon, là, c'est un léger spoiler. Et qui assiste, entre guillemets, c'est qu'elle est témoin d'une agression sexuelle. Elle l'entend parce qu'elle a lieu dans la pièce d'à côté, dans l'hôtel.
Ouais.
Et cette scène est absolument glaçante et terrifiante, alors que tu ne vois rien à l'écran.
Et je me souviens purement... pas de la scène, je t'avoue.
Ah ouais,
mais moi, Neon Demon, je suis désolée, mais vraiment, j'en ai gardé très peu de souvenirs. Il m'a pas marqué plus que ça, pour être honnête, à part pour les couleurs.
Ah ouais.
Je suis désolée.
Tu te souviens pas des scènes dont je parle quand je parle de trucs archaïques et violents et gore et cru ?
Si, je me souviens des scènes. Je me souviens de quelques-unes, pas toutes, honnêtement. Et là, je dois avouer que la scène que t'es en train de décrire, je n'en ai aucun souvenir.
Bah, on en parlera hors antenne.
J'aurais dû le revoir avant de venir.
Bah,
au podcast.
Temps, si t'avais dû revoir tous les films que je t'ai, enfin, dont on a parlé aujourd'hui, ça t'aurait pris beaucoup de temps, je pense.
Ouais, peut-être. Mais ils valent le coup. Tous. Voilà, pour même Neon Demon, quand bien même, personnellement, il m'a pas trop touché.
Ok. Bon, après, voilà, pour moi, c'est du elevated horror parce qu'on a cette forme très, très investie, cette manière de faire peur de manière détournée. Là, j'ai parlé d'une scène, mais je peux pas aller plus loin sans spoiler, donc je vais m'arrêter. Bon, sur le froussomètre.
Ah bah, moi, tu peux te douter, du coup.
Hein ?
Ouais.
Vraiment rien du tout.
Si, il y a quelques scènes qui m'ont mis assez mal à l'aise. Il y avait effectivement un côté très hypnotique, comme tu disais.
Et puis tu comprends pas tout ce qui se passe, t'es perdu.
Non, ouais, t'es un peu paumé.
Les dialogues sont bizarres. Les gens sont bizarres hein, dans ce
oui,
film.
Oui, tout est très étrange.
Tout le monde est
étrange,
ça fait très secte slash culte.
Ouais, carrément. Carrément.
Je vais vous donner, moi, mon froussomètre pour ce film. The Neon Demon, on est sur un bon 7 quand même.
Ah, quand même.
Parce que je me rappelle vraiment de mon état en sortant de la salle. Je me rappelle de mon état quand j'ai regardé le film. Je l'ai revu, je crois, en fait. Je l'avais dit que je ne l'avais pas revu, mais je l'ai revu. Bien sûr, ça ne fait pas du tout le même effet sur un écran que dans une salle.
Ouais.
Après, comme je savais à quoi m'attendre, j'ai eu moins peur. Mais tu as aussi l'aspect très choquant, encore une fois. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi.
Et qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça.
C'est ça. Aussi. Montrer cette manière-là.
Un petit côté nauséeux, quand même. Je me souviens de ça. Alors, je ne sais pas si c'est dû aux couleurs.
Peut-être. La surcharge.
Ou mise en scène, où vraiment, je me souviens qu'il y a toujours la moitié de l'écran qui est dans un noir quasi complet, l'autre moitié de l'écran qui est bourré de couleurs. C'est très étrange, si je me souviens bien.
Mmh.
Et je me souviens que ça avait foutu un peu une nausée physique, quoi. Mon regard était perdu dans l'écran en permanence.
Ouais, je comprends. Ok, on va passer au prochain.
Allez.
Alors, on va parler un peu de cinéma français, quand même. Cocorico.
Le cinéma de genre français.
Allez, on va parler de Grave, de Julia Ducournau, sorti en 2016 aussi. Alors, est-ce que tu te rappelles de l'histoire ?
Oh oui, je m'en rappelle très bien de l'histoire.
Alors là, ce film, tu t'en rappelles très bien, je pense, contrairement à The Neon Demon.
Ouais, alors il y a peut-être ça, quelques... Effectivement, c'est... malheureusement, celui-là aussi, j'ai pas le temps de le revoir.
Mais on l'a vu je m'en souviens encore bien. Au ciné, et on l'a revu, il me semble, tous les deux aussi.
Ouais, là. Tout à fait, ouais. Donc Grave, film franco-belge, il me semble.
Ouais.
Donc c'est l'histoire d'une nana, une végétarienne, qui après... Sa famille est végétarienne. Et elle arrive en école de vétérinaire. Et pour en tant que bizutage, elle doit manger, je sais plus si c'est un bout d'animal ou...
Un foie de lapin, un truc comme ça.
Ouais, peut-être, un truc comme ça. C'est un bout d'animal, quoi, en tout cas. Et elle aurait peut-être pas dû. Ça va créer certaines choses chez elle.
Il va y avoir des conséquences.
Ouais, il va y avoir des conséquences, effectivement. Et voilà.
Alors, dans la mise en scène, tu te rappelles un petit peu comment c'était ce film visuellement ?
Je me souviens que c'était. Les couleurs étaient, si je me souviens bien, très plates. Je sais pas comment dire, très pastel un petit peu.
Bah oui, en fait, non, pas pastel. Non, pas pastel du tout. Par contre, on est sur quelque chose de proche de la réalité, un peu documentaire, quoi.
Ouais.
Très film franco-français, c'est pas saturé, il n'y a pas des effets de style de fou.
Alors justement, j'ai l'impression qu'ils ont baissé même le contraste.
C'est possible.
J'ai l'impression. Il y a une espèce d'écrasement des perspectives, si je me souviens.
En fait, ça, pour le coup, tu retrouves un peu cette idée claustrophobe parce que tu es... enfermé sur ce campus-là de Veto avec
campus
tous ces jeunes.
Campus qui est très glauque d'ailleurs.
Les chambres d'étudiants sont glauques, les salles de classe sont glauques, tout est assez aseptisé forcément. Et en fait, c'est un film qui parle en fait de la solitude étudiante, de cette gamine qui se retrouve parmi ses comparses à souffrir du bizutage et des codes sociaux et de comment elle fait pour s'intégrer en fait. Dans cet univers entre ados qui peut être extrêmement violent.
Ah, c'est difficile sans spoiler, mais ouais, effectivement, dit comme ça, je comprends un peu mieux, du coup, le twist, la suite du film, si on prend effectivement ce point de vue-là sur le film.
Parce qu'il y a un twist.
Évidemment, il y a un twist, mais effectivement, je le comprends beaucoup mieux.
C'est-à-dire, tu comprends mieux ?
Bah, ça va être difficile d'en parler sans spoiler, mais pour en parler hors micro.
Ah, mais c'est dommage.
Mais oui, c'est dommage. Okay. Mais voilà, je.
C'est un film qui va mettre mal à l'aise son spectateur, beaucoup. Mmh. Encore une fois, le design sonore est très travaillé dans Grave, la musique, ces plans dont on a parlé, glauques, assez lugubres, sans couleur, cette isolation, cette claustrophobie. Alors l'actrice est incroyable, il me semble que c'est Garance Marillier, en plus elle est très très jeune, elle a un visage d'ange, elle est extrêmement talentueuse, et on va retrouver des thèmes du body horror quand même.
Ouais, beaucoup.
On va retrouver aussi les thèmes autour de la transformation du corps à l'adolescence,
ouais,
et l'entrée dans la sexualité.
Et qui est très très bien, moi j'ai trouvé que c'était vraiment toutes les questions autour de la sexualité. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film, vraiment, c'est très très bien foutu. C'est-à-dire que c'est clairement pris d'un point de vue plutôt féminin. Hein.
Oui.
Mais malgré ça, malgré le fait que je sois un homme et que du coup, je n'ai pas connu les mêmes émotions à ce moment-là de ma vie, là, je les ai vraiment ressenties parce que l'actrice fait un rôle génial, parce que toutes les émotions qu'elle est censée passer sont sublimées par la mise en scène et par ce côté assez... claustro, mmh. Qui a un côté un peu comme le Babadook, hein, vraiment, de ce point de vue-là,
en
moins sombre, mais on retrouve même claustrophobie et même pression.
C'est une claustrophobie différente parce que c'est un enfermement entre le fils et sa mère dans la maison familiale, touché par le drame et le deuil.
Dans le Babadook, ouais.
Dans le Babadook, tandis que là, c'est l'isolement parmi la masse. Donc ouais, c'est une autre forme de solitude et c'est une autre forme de sentiment d'enfermement qui est presque pire pour moi. De cette altérité,
ouais, un peu, ouais,
et du fait de vouloir, de vouloir être intégré aux autres, de vouloir créer du lien.
Elle se force à s'intégrer, elle se force, ouais, tellement à s'intégrer.
C'est ça, elle se fait violence.
Et elle se fait vraiment trop violence. C'était...
Avec des, ouais, scènes, voilà, pour le coup c'est assez gore, hein, Julia Ducournau, son autre film Titane qui a eu la Palme d'Or en 2020, je sais plus combien,
okay.
Mais c'est un cinéma quand même assez cru et graphique. Mm. Sur l'échelle de la frousse,
Je mettrais un 4.
D'accord.
Je mettrais un 4, il m'a pas fait particulièrement peur. Mais par contre, un petit peu, claustrophobie, quoi. Il m'a rendu claustro.
Ouais,
il m'a rendu claustro, il m'a fait ressentir beaucoup de tristesse du personnage principal. De tristesse, de claustrophobie. Non, vraiment, c'était pas mal. Par contre, ça m'a pas fait peur à proprement parler. Mais c'était trop bien.
Ouais, c'est un très bon film. Moi, je lui mettrais... il m'a fait peur sur le moment, il m'a mise plus mal à l'aise, je lui, ouais, mettrais 5. Ok, donc on va passer au prochain film. Alors ça, c'est mon petit chouchou, mon, oui, favori, le
je
film qui
tellement
m'a le plus terrifiée, je pense, ces dernières années. On l'a vu ensemble et il n'y a pas longtemps, et vraiment à chaque seconde, je te répétais à quel point j'étais mal et à quel point j'étais mal pendant tout le film, c'était horrible. Donc c'est Barbarian, sorti en 2022, écrit et réalisé par Zach Cregger, c'est encore son premier film. Le casting inclut Georgina Campbell, qu'on a pu voir dans cet épisode de Black Mirror, Hang the DJ, où il date, tu sais, sur une appli.
Ah, c'était elle,
ouais.
Il est tellement bien cet épisode, d'ailleurs.
Il est un excellent épisode.
Il est vraiment très très bon.
Avec Bill Skarsgård, que vous avez vu dans le rôle de Pennywise dans It, et Justin Long. Bon, Justin Long, c'est un acteur, pour le coup, américain de comédie et de films d'horreur assez connu aussi.
Okay.
Tu te souviens de l'histoire ?
Ouais, je m'en souviens très bien, parce que je l'ai revu en plus
de
ça
super.
Il n'y a pas longtemps, parce que lui, vraiment, je l'ai adoré et j'avais envie de le montrer à ma copine. Barbarian. On suit deux personnes qui sont à Détroit.
Non, on suit une personne au début.
Oui,
rapidement
on est sur deux. Mais ouais, ouais, mais au début on suit une personne, une femme.
Oui,
donc
c'est très important de le préciser.
Ouais, qui arrive dans les quartiers abandonnés, complètement abandonnés de Détroit. Puisque,
pour un entretien d'embauche.
Pour un entretien d'embauche, pour devenir documentariste. Ça se dit ?
Oui, ouais. Et elle a loué un Airbnb.
Exactement. Elle a loué Airbnb, et quand elle arrive au Airbnb, eh ben, y a déjà quelqu'un qui est là, un homme, y a eu une erreur, il y a eu un mix. Bon, la maison Airbnb a été louée à deux personnes différentes pour le même soir, et pour plein de raisons, elle décide de rester avec cet homme, et... Bah, elle aurait pas dû.
Non.
Non, elle aurait pas dû rester. Elle aurait pas dû rester. Mais ça va être très difficile de saisir tout l'intérêt de ce film sans spoiler.
Alors, moi, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il joue avec nos attentes.
Clairement.
C'est que là, on vous a dépeint. On vous a dépeint un film. Et vous vous dites, oui, bon, bah voilà, ça va être un psychopathe. Il va. Voilà, ça va être une histoire autour de. Des violences sexuelles, etc. Vous avez raison, c'est bien un film autour des violences sexuelles, en effet. Mais c'est un film qui, moi, m'a surprise de nombreuses fois. À chaque détour, j'étais de plus en plus mal, parce qu'en plus, ça escalade dans l'horreur. C'est-à-dire que, voilà, donc déjà, il y a cette première situation qui met mal à l'aise. Et en fait, ensuite, il va se passer des choses dans cette maison dont on va pas vous parler, jusqu'à la moitié du film, où là, il y a la meilleure rupture de ton de tout le cinéma.
Incroyable, la rupture de ton.
C'est Justin Long dans sa... En fait, voilà, on a la première partie du film, on est sur un thriller horrifique basique, ça coupe. À un moment, en plus, de l'acmé de la terreur. Et on est sur Justin Long dans sa voiture qui est en train de chanter à une chanson à la radio. Et on est à Hollywood, quoi. Il conduit sa convertible dans les montagnes. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait rire, celle-là, la première fois que je l'ai vue. Parce que t'as ce truc de « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, on comprend que c'est un acteur, il reçoit un appel. Et il est accusé de viol.
Ouais.
Et on comprend que, bon, il va perdre... Il va perdre son
taf.
Voilà, c'est ça.
On comprend aussi assez vite que c'est un peu un sale con, quand même.
Oui.
Ouais, très vite. Ouais, pas mal, ouais.
Très, très vite.
C'est un peu un sale con.
Même s'il y a ce doute où on ne sait pas vraiment s'il l'a fait au début, mais on voit après. Dans un article de Slate, ils disent que c'est le film le plus drôle, le plus intelligent qui est sorti depuis très longtemps. Et que c'est un film qui réussit à contenir de la terreur pure, des thèmes d'abus sexuels, de maternité et de violences transgénérationnelles, dans un film maelstrom qui semble dénué de sens jusqu'à son dénouement. Once it clicks, it's a gut punch of a reveal.
Ouais, effectivement. Alors bon, il y a effectivement des thèmes sur les violences sexuelles. Si jamais vous y êtes sensible, sachez qu'il n'y a pas de scène explicite.
Non. Bah,
aucune scène explicite, donc.
Pour le coup, voilà. Moi, tous les films dont je parle, si j'ai réussi à les voir, ma limite, c'est que je ne peux pas voir de films de viol. Et du coup, je check souvent dasthedogdie.com, le site des triggers. Parce qu'il y a tous les triggers sur Das de Dog Die. Si vous êtes sensible, vous pouvez voir si vous pouvez voir le film ou pas. Ça, j'en parlais dans le podcast des petits pédestres de Mo et Cédric. Et pour le coup, il n'y a pas de scène de viol à l'écran, il n'y a pas de scène d'agression sexuelle à l'écran.
Non.
Tout est suggéré.
Ce que je trouve très bien, d'ailleurs.
Ah bah, heureusement.
Parce que c'est souvent, je trouve, beaucoup trop souvent, surtout avec la popularité de Game of Thrones, de séries comme ça qui montent du cul en veux-tu, en voilà pour vendre. Là, c'est bien, parce qu'ils se sont encore abstenus, parce que ça n'aurait servi à rien.
Encore de montrer du cul pour vendre, bon, c'est débile et c'est putassier, mais on s'en fout, quoi. Par contre, montrer des violences sur les femmes de manière gratuite, ça, c'est plus problématique pour moi.
Voilà, et du coup, là, ils sont pas rentrés là-dedans, ils sont pas tombés là-dedans, et heureusement, parce que je pense que ça aurait pu me faire détester le film, alors qu'il est incroyable.
Il est extraordinaire.
Ouais,
il recapture encore une fois un peu cette idée de peur enfantine.
Un peu. Moi, je ne l'ai pas trop vu comme ça, mais effectivement, un petit peu, ouais, maintenant que j'y pense.
Je pense que ça dépend de ton enfance.
Ouais, ça dépend peut-être, ouais. Effectivement, ça doit dépendre de ça. Ouais. Mais effectivement, comme tu disais, il joue avec nos attentes, il joue extrêmement bien avec nos attentes. C'est-à-dire qu'il nous fait toujours aller vers un scénario extrêmement classique, extrêmement connu, et qui aurait pu être bon d'ailleurs, hein, c'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais, mais et à chaque fois, au dernier moment, ça change de sens, et ça nous surprend à chaque fois.
C'est incroyable.
Ouais, non, vraiment, il est trop bien.
Les acteurs sont ouf, enfin... Et c'est un film qui est bizarro drôle, quoi. Il y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour.
Et moi, c'est ça que j'aime.
Ouais.
Sur l'échelle de la frousse.
Ah, il était quand même un peu... Ah, il y a du bon, quoi. Il y a des scènes, qui m'ont pas mal marqué.
Mais en fait, c'est...
Notamment quand notre actrice commence à capter un peu que la maison est un petit peu plus que ce qu'on pense. Il y a des scènes quand même extrêmement, extrêmement stressantes. Pas forcément angoissantes.
Ah si, moi, ça m'a angoissée. Parce que ça joue aussi avec le truc... Alors, pour le coup, de la peur enfantine, elle va explorer une partie de la maison au sous-sol,
ouais.
Et il n'y a pas de lumière.
Ouais.
Et ça fait, enfin, et vraiment cette partie d'exploration, elle est flippante.
Oui, c'est exactement à celle-là que je pensais. Ouais, elle est vraiment. Alors moi, je l'ai pas trouvée flippante, mais stressante, incroyablement stressante. Elle fout extrêmement mal à l'aise. Il y a aussi beaucoup de tristesse, plutôt vers la fin du film. Là où le film prend un peu plus de sens, comme tu disais dans ta review de Slate. C'est vraiment extrêmement triste. Moi, j'ai manqué de lâcher une larme.
Ah oui,
pourtant,
c'est
moi, je ne pleure que devant Pacific Rim et Mad Max Fury Road. Mais là, j'étais à deux doigts de lâcher une larme parce qu'il y a beaucoup de tristesse à la fin aussi. Mais froussomètre, ouais. Ouais, entre 4 et 5. 4-5. 4-5.
Ok, quand même.
Comme ça. Ouais, quand même. Quand même. Il y a des moments bien flippants.
Moi, je suis un bon 9, je pense.
Ah ouais.
Bah, en fait, j'ai pas eu. Ah si, j'ai pas été bien après pendant plusieurs jours.
Ouais.
Mais en fait, c'est juste que sur le coup. Je trouvais la terreur que je ressentais insoutenable. L'angoisse que je ressentais était insoutenable.
Ouais, elle est dure, ouais.
Et c'est pour ça que je te disais, je peux pas, je vais pas y arriver. Limite, je te demandais, est-ce que tu me prennes dans tes bras comme une enfant, quoi. Tu vois, tellement j'avais peur. Enfin, vraiment, j'étais... Et c'est vraiment cette émotion qui me reste. Et je l'ai revue plus tard avec quelqu'un d'autre. Je crois que je l'ai montré à d'autres gens. Je l'ai montré parce que je parlais que de ça. J'ai hyper fixé pendant plusieurs semaines sur Barbarian.
Non, c'est pas ton style de faire ça.
Et pour le coup, je ressentais encore cette terreur. Même si je savais ce qui allait se passer et tout ça, de manière amoindrie. Mais vraiment, cette expérience-là, elle me reste fort dans mes os.
Tu vois, ouais, dans ma chair. Je comprends, ouais.
Ok, donc là, on a parlé de films. On va vous parler de réalisateurs, donc des pontes un petit peu dans le milieu. Je vais pas vous surprendre quand je vais citer Jordan Peele, évidemment, le très grand Jordan Peele, qui a sorti en 2017 son premier film, qui a fait sensation à l'époque, qui a voilà, défrayé la chronique, tout le monde en parlait, c'était fou. Get Out.
Ouais.
Donc encore une fois, écrit, coproduit, réalisé par lui, avec Daniel Kaluuya, Allison Williams. Il suit... Quelle histoire ? Raconte l'histoire.
Alors, c'est l'histoire toute simple d'un homme noir, il faut vraiment le préciser parce que ça fait partie intégrante de l'histoire, donc d'un homme noir qui va en week-end chez la famille de sa copine, qui est blanche, la famille est riche, et je pense que c'est très important, la famille est démocrate jusqu'au malaise.
Oui, c'est ça, c'est que... alors du coup, voilà, c'est ça l'histoire, c'est un peu une rencontre entre voilà, ces deux mondes, un choc un peu entre ces deux mondes, et quand il arrive dans la famille, t'as vraiment le père qui est joué par le père, l'acteur qui joue le père de Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, voilà.
Ah si oui, tiens, c'est vrai, j'avais pas capté, ouais.
Qui dit, franchement, si j'avais pu voter pour Obama une troisième fois, j'aurais tellement fait.
Qu'est-ce qu'il fout mal à
voilà,
l'aise.
Voilà, alors pour le coup, le fils est ouvertement raciste, le frère de
Alison Williams.
Ouais, il est vraiment, il est badant.
Pas. Ok.
Voilà, le père, on sait plus trop. Ah oui, le père est chirurgien et la mère est thérapeute.
Ouais.
Voilà, sa copine, elle le rassure, elle lui dit mais non, t'inquiète, ils vont être sympas, ils sont pas racistes, je te promets, machin. Et on suit donc le personnage de Daniel Kaluuya qui est en lien avec son meilleur pote qui a la douane de l'aéroport, qui est un peu le comic relief.
Qui est clairement le comic relief, ouais.
Ouais, qui est vraiment pas mal. Et en fait, on arrive dans cette famille et c'est bizarre parce que voilà, ils ont quand même des espèces de domestiques noirs, quoi. Tu vois, la oui. femme de maison, c'est une personne noire, le jardinier, c'est un mec noir, et du coup, ça fait très... Enfin, voilà, dès le début,
ils ont un comportement étrange,
ils ont un comportement domestique noir. Très étrange.
Et c'est vrai que y a pour moi, tout un sous-texte politique.
Bien sûr.
Après, c'est Jordan Peele, il y a toujours un sous-texte politique, qui est plus ou moins évident. Là, dans Get Out, clairement, Jordan Peele... se fout de la gueule clairement des démocrates, donc la gauche américaine, qui fétichise complètement les noirs, mais à un point, ça devient extrêmement malaisant. Bah, c'est comme il dit, ah, si j'avais pu voter pour Obama une troisième fois, je l'aurais fait. Ouais. Et puis, à peine le copain noir rentre dans la maison, qu'il lui montre tout de suite la fameuse photo de Jesse Owens, le coureur noir qui a gagné... Je Berlin. Crois que c'était le 100 mètres, mais je suis plus sûr, au JO de Berlin, et donc à le point levé, qui est une photo extrêmement connue en mode... voilà quoi, bah, en mode défiance, défiance à l'égard des idéaux racistes de cette époque-là.
Nazi.
Ouais, et vraiment, à peine le gars est rentré dans la maison, il montre tout de suite cette photo en mode « Ah là là, de voir à quel point... » Et je trouvais toute cette fétichisation-là. Alors évidemment, elle fait partie intégrante de l'histoire. Et en plus de ça, moi, personnellement, je dois avouer que je l'ai trouvé très drôle.
Oui, mais on retrouve un peu cette même idée que dans Barbarian, c'est que c'est quand même un film qui joue avec l'humour. Enfin, on a le comic relief, enfin voilà.
Ouais.
Après, sur le froussomètre, toi, tu le mettrais où ?
Pas très haut, vraiment je le trouve pas très... Je le trouve pas vraiment effrayant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont trouvé terrifiant. J'ai pas compris pourquoi.
Moi non plus.
C'est-à-dire qu'il y a, quelques moments qui m'ont fait un peu peur, qui m'ont fait un peu sursauter, qui m'ont un petit peu mis mal à l'aise, en angoisse.
Pour le coup, c'est plus des moments de procédés de films d'horreur
ouais, clairement.
Classiques. C'est des jumpscares.
Oui, c'est ça, c'est des... Non, c'est des bons jumpscares, c'est pas le jumpscare habituel où il y a, je sais pas, un chat qui saute sur le lit en faisant c'est pas nul à ce point-là. C'est vrai qu'il y a des moments un peu, ouais, effectivement, les moments où il cherche à te faire peur, il te fait peur grâce à des procédés extrêmement classiques.
Bon, après,
c'est pas
oui,
forcément très intéressant.
Oui, et puis c'est une horreur aussi expérimentationnelle, enfin, c'est l'horreur de ce que vit le personnage de Daniel Kaluuya. C'est ouais. Cette entrée dans cet enfer aussi. Enfin,
ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai ressenti un malaise, mais terrible. Plus de l'ordre du second-hand embarrassment, comme on dit.
Oui, au début, quand il...
Ouais, parce au début, coup, quand il rencontre toute la famille.
Ouais, c'est ça. En fait, ils font une fête, les parents, et du coup, ils ont invité plein de leurs amis.
Ouais. C'est ça, ils sont tous des blancs riches démocrates voilà, qui fétichisent ça. Tous les noirs.
Ouais, qui disent des trucs ultra malaisants au personnage de Daniel Kaluuya. Enfin, c'est genre très inconfortable.
C'est, exactement, très confortable, c'est le terme. Inconfortable. Mm-hmm. Et en même temps, c'est un truc moi, que j'ai ressenti plusieurs fois, tu vois, quand t'es dans des environnements comme ça, où tu sais que t'es pas trop à ta place. Et que c'est un peu bizarre, tu vois. Moi, je l'ai vraiment ressenti, je l'ai ressenti dans ma chair.
Bah, pour le coup, c'est Jordan Peele a vraiment réussi à nous faire ressentir, nous, en tant que blancs.
Ouais. Ouais, effectivement.
Ce que ça fait quand t'es une personne racisée au milieu de personnes blanches, quoi, tu vois.
Ouais, peut-être, ouais. Effectivement. En tout cas, c'est extrêmement malaisant.
Voilà, ce malaise, cet inconfort, et puis cette peur un peu latente de bah, qu'est-ce qu'on va me faire, quoi. Parce que ouais. C'est vrai que les personnes noires ont quand même pris bien, 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 bien cher les African Americans par les blancs aux États-Unis, quoi. Mm. Donc, t'as aussi toute cette histoire-là qui est charriée dans cette maison un peu au style colonial.
Elle a un style colonial, ouais, effectivement.
Voilà, c'est évocateur de tout ça. Donc il y a des twists, évidemment, c'est pas que ça, l'histoire. Il y a des éléments un peu fantastico-horrifiques. Moi, je suis d'accord avec toi sur le froussomètre. Je lui mettrais même pas un, en fait. J'ai pas eu peur une seule seconde. Après, pour ce qui est de la... suspension d'incrédulité, moi c'est très dur quand j'en parle souvent, quand t'as des thérapeutes ou des psychologues dans des films et que ils font des trucs qui sont pas possibles en fait, et ça m'énerve. Enfin, et ça a tendance à me trigger un petit peu et à me sortir du. Et à me sortir du truc.
Ah non!
Bah, si.
C'est pas parce que t'es thérapeute que tu peux t'absoudre de la suspension consentie de l'incrédulité.
Mais en fait, c'est pas quelque chose que je contrôle. C'est juste que en fait, ça, j'ai cette réaction malgré moi. C'est que je n'accroche pas au film parce que ce qu'elle fait dans le film n'est pas possible. Et alors que c'est totalement débile parce que dans son deuxième film, Us, la situation est pas du tout crédible non plus. Ça n'a aucun sens. Enfin voilà, ça n'est pas du tout. Ouais. Oui, c'est ça.
C'est peut-être ça qui t'embête, c'est que t'es à la frontière du fantastique dans Get Out. Non,
ouais, je sais pas.
C'est peut-être ça.
Ou alors c'est juste parce que c'est une psy et que je supporte pas les personnages de psy dans le cinéma, hein, j'en sais rien, je sais pas. Ouais, enfin, en tout cas, c'est très rare que j'en aime bien, quoi.
Ouais, il y a moyen.
Alors, pour le coup, on va passer à son autre film, Us, qu'on a vu au cinéma.
Ouais.
C'est un film d'horreur psychologique. Alors là, on est plus dans le Home Invasion et c'est sorti en 2019. Encore une fois, écrit et réalisé par Phil, avec Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss et Tim Heidecker. Tu te rappelles de l'histoire ?
Ouais. L'histoire, on suit une petite famille bien sous tout rapport, machin, qui va en vacances et le cabin.
Oui, dans leur maison de vacances.
Dans une espèce de chalet au bord d'un lac. Voilà, ils sont tous noirs, ça toujours avec Jordan Peele, ça a une importance. Mm. Et puis, dans la nuit, ils vont se faire attaquer.
Par des inconnus.
Quelques personnes.
Ouais.
Voilà, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, parce que c'est pas n'importe qui va les attaquer.
C'est pas n'importe qui.
Clairement, c'est pas n'importe qui. Et on va les voir, en fait, essayer de survivre à ces personnes. Se rendre compte que ces personnes-là sont pas seules.
Mm-mm.
Et que, en fait, le film, il porte plus sur les personnes qui les attaquent véritablement que sur les personnes qui sont les victimes,
Mm-mm.
je trouve.
Ah, mais c'est... Alors, pour le coup, moi, c'est mon préféré.
C'est excellent.
J'aime ce film d'un amour infini. Lorsque je l'ai vu au cinéma avec toi, je me rappelle que j'ai eu la chair de poule pendant toute la séance. J'avais trop peur. Et c'était extraordinaire, cette sensation.
Ouais.
Vraiment. La première scène, en fait, on voit le personnage de Lupita Nyong'o, du coup...
qui est la maman, c'est
qui
ça ?
Qui est la maman, ouais. Adélaïde. On la voit enfant.
Elle est incroyable, actrice.
Elle est extraordinaire.
Elle est incroyable.
Ah,
elle m'a bluffé.
C'est une des plus grandes actrices
de
sa génération.
Ouais, c'est incroyable.
Disons-le. Parce que du coup, elle a deux rôles dans le film. Elle a le rôle d'Adélaïde et un autre rôle. Et quand elle fait cet autre rôle... avec cette voix et cette
Jesus,
tête,
incroyable.
Mais en fait, elle est terrifiante.
Ouais.
En elle-même. Juste, tu mets sa gueule avec ses yeux exorbités et cette voix et ça fait trop peur.
Ouais, c'est génial.
C'est extraordinaire qu'on la voit enfant. Elle est avec ses parents. Ils sont à une fête foraine et en fait, elle se perd sur la plage et elle commence à errer dans des endroits bizarres et on comprend pas.
Elle va dans une espèce de maison hantée.
Fantôme.
Alors les maisons fantômes à l'américaine, c'est pas du tout les mêmes que ce qu'on a en France. C'est des maisons où tu te promènes, c'est des espèces de petits labyrinthes. Parfois avec des acteurs qui sont là pour te faire peur, machin. T'as des miroirs, des bidules, des trucs. C'est vachement plus efficace, je trouve, que les maisons...
C'est quoi les maisons hantées françaises ?
Bon, les maisons hantées en Europe, c'est des trucs un petit peu à Disneyland ou dans les fêtes foraines, où souvent, t'es dans un petit chariot, et il te fait passer dans des scènes plus ou moins flippantes.
Comme dans Amélie Poulain.
Je me souviens pas de cette scène, mais certainement.
D'accord.
À l'américaine, c'est vraiment, tu te promènes, quoi. Tu te promènes et c'est flippant. Et donc, il y a cette scène qui est incroyable. Ah, pardon, d'ailleurs, je t'ai coupé. Vas-y, raconte-la, parce qu'elle est...
Bah non, mais c'était bien.
Bon, et du coup, tu suis l'actrice principale en mode flashback, hein,
ouais.
C'est quand elle est petite.
Ouais.
Donc tu la suis dans une espèce de maison hantée comme ça, sur la plage. Et elle va tomber sur quelqu'un. C'est difficile
on sait pas...
de s'en spoiler,
en fait, non,
mais...
En fait, on sait pas trop au début, c'est juste qu'il lui arrive quelque chose ce jour-là.
Oui.
Et on la retrouve adulte.
Ouais.
Et cet endroit est le même que là où ils ont leur maison de vacances et où ils reviennent. Et en fait, on a des dialogues qui nous font comprendre que le personnage de Adélaïde, elle est un peu trigger par cet endroit, qu'elle aime pas trop venir là, que c'est un peu compliqué pour elle, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, et puis qu'elle parle pas de son enfance, que c'est un peu compliqué pour elle de s'ouvrir. Tu vois, son mari dit toujours « c'est moi le plus émotif dans le couple ».
C'est vrai,
t'as
oui.
ce truc de... Alors, ils ont deux enfants, un petit garçon, on va dire, de 12 ans et une gamine de 15. Et elle a, voilà, c'est un peu la famille parfaite, tu vois, américaine. Ils ont leur maison de vacances, ils ont leurs potes, ils sont beaux, enfin voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose chez Adélaïde qui cloche un peu, quoi. On se dit, c'est... Cette héroïne, c'est celle par laquelle on voit le récit, finalement, elle n'est pas celle qu'on croit qu'elle est.
Ouais.
Cette phrase était alambiquée.
Ah là, le nombre de spoils.
Bah non.
Bon, écoutez pas trop précisément tout ce qu'on vient de dire, sinon vous pourriez en déduire l'histoire du film.
Mais non. Franchement, non, ça va en rester obscur.
Non, mais il est trop bien.
Ce qui fait peur dans ce film, donc on a évidemment ce qu'on disait du jeu de l'actrice, la forme aussi... dans Jordan Peele, t'as quand même une dynamique dans la mise en scène, les mouvements de caméra et le placement de la caméra qui sont tout particuliers à lui, qui lui appartiennent,
oui.
Avec quand même une notion de... Voilà, moi, c'est des scènes qui sont très kiffantes à suivre, tu vois, au niveau du montage, il y a quelque chose d'extrêmement esthétique.
Ouais, c'est esthétique, c'est clair. On comprend clair, toujours tout toujours de ce qui se passe. L'action. C'est toujours très clair. Tu te poses jamais de questions. Mm. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Surtout qu'il y a pas mal de scènes d'action. Hein.
Oui.
Mais elles sont toujours hyper claires. Pas de chorégraphie alambiquée. Rien de compliqué. Mais c'est quand même clair. C'est facile à suivre. C'est très agréable.
La musique est vraiment cool aussi.
Ouais, la musique
là,
est trop
elle
bien.
Est moi, je l'ai un peu dans la tête là. Elle est vraiment magnifique. Le jeu des acteurs est vraiment ouf aussi, les autres acteurs, hein, Elisabeth Moss notamment, c'est elle, on l'a vu dans The Handmaid's Tale, mm-hmm. c'est l'actrice principale, donc ouais. elle est quand même...
Elle, elle oui, est elle joue la mère de famille des, de leur famille des voisins, quoi, ouais, à côté,
ça.
Là. Ouais.
C'est ça.
C'est un peu des gros lourds, d'ailleurs, si je me souviens bien. Mais...
Ouais, c'est, ils sont... c'est un peu des nouveaux riches beaufs, quoi.
Ouais, parce que tous ces gens, c'est la famille parfaite, mais toujours, il y a toujours des trucs qui vont pas.
Oui, bah oui, elles ont deux grands ados...
Ouais, le ils ont des potes un peu riches, mais les potes un peu riches sont quand même un peu cons et pas très sympas. Le papa de la famille principale, il a acheté un bateau, mais le bateau, il est cassé.
Ah oui,
ils ont une jolie voiture, mais je sais plus ce qu'elle a. Enfin bref, il y a toujours un truc, il y a toujours truc qui va pas. Alors il se trouve que quand tu lis des analyses, enfin quand tu regardes un peu des analyses du film, il se trouve que ça... Toutes ces petites choses qui vont pas sont porteuses d'un message un petit peu plus global. Je dois avouer, j'avais complètement raté quand j'ai vu le film.
C'est toujours comme ça, Jordan Peele, il laisse des messages cachés partout, il adore ça.
Ouais, mais c'est hyper intéressant d'aller regarder des vidéos ensuite explicatives. C'est particulièrement intéressant pour ce film-là, j'ai trouvé.
Il a un côté cryptique.
Ouais.
Et tu retrouves aussi dans Us cette forme d'humour spécifique à Jordan Peele.
Ouais.
Voilà, quand t'as reparlé du père avec son bateau. Le père, c'est le comic relief pour le coup.
Ouais, un peu, mais j'ai adoré le personnage.
Ah bah, les personnages sont vraiment chouettes. Donc voilà, regardez Us, c'est terrifiant.
Et puis la scène finale.
Oui.
Ah, pas... j'en ai le poil qui se risque. On peut pas la spoiler, mais la scène finale, elle est incroyable.
Ah, mais c'est magistral.
Ouais.
Pour le coup, moi je le trouve bien supérieur à Get Out, et je sais que, enfin, c'est... Pour le coup, quand j'en parle, on n'est jamais d'accord avec moi. Alors que moi, je trouve Us infiniment
plus... Je trouvais Us beaucoup plus sympa que Get Out. Mm. Peut-être un peu moins intéressant.
Ah
mais
ouais.
En tout cas, plus sympa à regarder, ouais, clairement.
Sur le froussomètre, on est où ?
Paf ! Pas très haut. Il y a cette scène dont on vous parlait, cette scène dans la maison hantée, qui, elle, est très très haute dans le froussomètre. Mais sinon, globalement, non, moi, pas très haut. Honnêtement, je dirais peut-être un 3, quoi.
Ah, moi, y a...
Et un 3, parce qu'il y a cette scène-là.
Ah ouais ?
Ouais.
Ouais, pour le coup, c'est pas cette scène qui m'a fait peur. Je m'ennuyais un petit peu, voir, pendant cette scène. Ouais.
Quoi ?
Mais par contre, la scène qui m'a...
Attends, dans la scène, dans la maison hantée, celle que je t'ai forcé à regarder 5 fois, parce que la mise en scène, elle est genre incroyable.
Je me rappelle pas que je m'ai forcé à regarder cette...
Si !
Je confonds avec quelqu'un d'autre, je crois.
Non, c'était toi, je l'ai vu qu'avec toi.
D'accord.
Ah ouais, non, si, je m'en souviens très bien.
Ok.
Bon, enfin bref, pardon.
Bah écoute,
vas-y, continue.
Pour le coup, moi, c'est pas la scène qui me marque le plus. Pour moi, c'est la scène du Home Invasion. Et c'est cette rencontre, voilà, avec les autres.
De côté de la route.
Avec les autres.
Ouais. Ah ouais.
Et cette première scène
où
ils entrent dans la maison, donc ils finissent par rentrer dans la maison, ils finissent par les attacher, je crois. Et il y a ce premier dialogue avec ces voix. Moi, c'est vraiment les autres qui me font peur.
Oui.
C'est leur gueule, leur voix, leurs attitudes, la manière dont ils bougent. Ils bougent d'une manière saccadée. Disembodied, voilà, très. Il y a des. Ouais, vraiment, le design sonore, encore une fois.
On dirait un peu. C'est The Grudge.
Un peu, ouais.
Le monstre japonais, là. Ouais, oui. Si, je crois que c'est The Grudge.
Oui.
Ils ont un peu ce mood-là. Ouais. En moins spectaculaire.
En moins japonais, quoi.
En moins japonais, moins spectaculaire, mais il y a un peu ce truc de ces mouvements désarticulés, presque comme des espèces d'araignées bizarres. Enfin, ouais, il y a un truc comme ça, effectivement.
Ah bah, moi, sur l'échelle de la frousse, franchement, je le mets bien à 8, hein.
Ah ouais ?
Ah ouais, bah, je te dis, quand on l'a vu au cinéma, j'avais des frissons tout du long.
Ouais.
Donc, voilà. Ok, on va passer à Robert Eggers.
Ouais.
Alors, Robert Eggers, réalisateur que j'ai résumé ainsi, j'ai dit mise en scène austère et choix esthétique audacieux. Parce qu'on est quand même là-dessus.
Okay.
On est sur du cinéma un peu plus expérimental. Son premier film est The Witch, Alors là, il est classifié comme du folk horror et il est sorti en 2016. Il a révélé Anya Taylor-Joy dans son premier rôle.
Oui.
Anya Taylor-Joy, on la voit partout maintenant. On va la voir en tant que Furiosa.
C'est la nouvelle
petite
coqueluche, ouais.
Elle est partout, elle est même dans Dune. Et c'est une actrice extraordinaire.
C'est elle dans Last Night in Soho aussi,
oui.
Où je confonds. Ouais.
Elle est.
C'était pas mal ça.
Elle est tellement envoûtante. Elle a un visage et elle a un charisme.
Ouais, ouais, ouais.
Elle a une présence, cette actrice. Enfin, je comprends que tout le monde se l'arrache.
Elle a quelque yeux, chose. Surtout.
Oui.
Elle a un truc.
Elle a quelque
yeux.
Chose de magnétique. Enfin, ouais, ouais, ouais. Vraiment, à l'écran, tu ne vois qu'elle. D'ailleurs, dans Dune, on la voit une demi-seconde, là, Dune deuxième partie. Vraiment, on la voit juste dans une séquence. Je crois qu'elle parle même pas. Si, elle dit « I love you, my brother », un truc comme ça. Mais elle est incre. Enfin, voilà. Passion Anya Taylor-Joy par ici.
Oui, c'est ce que je vois, ouais.
Pour revenir à The Witch, l'histoire se passe en 1630. Et en fait, il s'agissait d'un script original de Robert Eggers lui-même. Il a travaillé pendant 4 ans sur ce script parce qu'il voulait raconter, du coup, là je vais raconter l'histoire parce que c'est assez particulier, d'une famille puritaine, donc puritaine qui vient de puritanisme, un courant religieux chrétien qui appartient au calvinisme et dont les partisans cherchaient à purifier et réformer l'église d'Angleterre du catholicisme à partir de 1559 et ont répandu leur doctrine en Nouvelle-Angleterre à partir de 1630. Donc on est vraiment au début de ça. Donc cette famille, donc le père, la mère et leurs 5 enfants, se retrouvent bannis de leur communauté et ils sont forcés de vivre un peu à la marge de cette communauté, au bord d'une forêt inquiétante. Une fois isolés dans la nature, des choses étranges commencent à leur arriver, que le père de famille attribue immédiatement à de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film ?
Il arrive à être claustrophobique dans un environnement parfaitement ouvert. Je trouve. Moi,
c'est l'enfermement de la famille.
Ouais, c'est ce qui m'a marqué le plus. Parce que, effectivement, on est dans des mouvements puritains. Hein. D'ailleurs,
c'est
ce qui justifiait les premiers colons, d'ailleurs, aux États-Unis, enfin, en Amérique à l'époque. C'était effectivement des espèces de presque fanatiques religieux protestants qui ont décidé de partir sur cette nouvelle terre pour éviter la décadence de l'Angleterre, quoi. Enfin bref, bon, donc on est sur des gens qui sont complètement enfermés dans la religion.
Ils et ont... c'est très, comment dire, austère, quoi.
Ah ouais,
y a rien.
C'est extrêmement austère, et, parce que dogme protestant oblige, tout est extrêmement austère, et en fait, à part la religion, ils n'ont rien.
Il n'y a rien.
La religion est toute leur vie, la religion est leur seule manière d'aborder les thèmes, de parler entre eux, tout passe par la religion, et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement claustrophobique. Ils sont en soi dans une ferme, machin et tout, alors clairement, il y a de la famine, machin et tout, tu comprends que c'est très très dur. Mais vraiment, c'est le poids, la chape de plomb religieuse et morale et culturelle qui va avec, qui est mais étouffante.
Ouais, c'est vraiment ces rapports familiaux, avec toujours voilà, la foi dévouée et cette paranoïa sous-jacente,
ouais,
parce
c'est
qu'ils
ça.
Sont extrêmement parano, du diable et des sorcières en général. Et en fait, finalement, c'est ça, c'est ce dogme-là qui va les conduire à leur perte et qui va les désolidariser en tant que famille.
Ouais.
Parce que c'est pas une famille très aimante.
Non.
Il y a pas des liens fous entre les... Et en fait, on retrouve cette paranoïa entre les membres de la famille.
Ouais.
De qui est le démon. Parce que du coup, il commence à se passer des choses... Donc ils essayent de faire pousser leur bouffe, ils essayent de machin. Il commence à se passer des choses bizarres. Et très vite, donc l'aînée de la famille, celle qui est jouée par Anya Taylor-Joy, va être un peu la source ciblée de sa famille, de lui dire « c'est toi la sorcière ».
Oui, c'est vrai. «
C'est toi la sorcière, c'est toi qui amènes le mal dans notre maison ». Donc en fait, ça nous fait sentir en insécurité totale.
Ah, clairement.
Et c'est froid. En fait, ce qu'on voit, c'est que... Alors, pour le coup, Cinémastique, ça fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « A 4 million period film shouldn't look like this ». En gros, il explique que c'est beaucoup trop beau pour son petit budget
de
4 millions.
C'est canon.
Et du coup, il explique comment un réalisateur a réussi à produire donc un film historique, quand même, period drama, parce que ça coûte très très cher, les films historiques, avec un tout aussi petit budget. Donc en fait, il y a quelque chose de minimaliste dans l'utilisation du budget, avec notamment... où est la caméra et comment on filme. On va pas faire des longues séquences, etc. On va faire plutôt des plans très longs, des plans fixes. Ils ont tourné au Canada, ça a duré que 25 jours. Donc ils priaient, ils croisaient les doigts pour avoir un temps pluvieux et pour que ce soit nuageux, parce qu'il faut le dire que tout n'est qu'en lumière naturelle. Donc c'est soit la lumière du jour, soit la lumière des bougies.
Des bougies et de la cheminée, ouais.
Et de la cheminée, voilà. Donc c'est, pour le coup, ça c'est très minimaliste.
Hyper bien, ça rend hyper bien.
En fait, t'as toujours l'impression de voir des tableaux. Et les tons sont gris, marronasses,
triste,
blanc et vert fade.
Et ouais,
y a
très
pas
peu,
de couleur.
Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de saturation.
C'est-à-dire que cette austérité émotionnelle, ce vide, est mis à l'écran par ce manque de couleur.
Ouais.
Et notamment, il y a l'inclusion de la couleur rouge dans le film, et quand elle apparaît, ça fait un choc visuel.
Oui, effectivement, oui. C'est vrai.
Donc finalement, il a réussi à créer des visuels uniques et authentiques, en utilisant le plus possible la lumière du jour, et ça donne au film un look particulièrement lugubre, et les couleurs sombres aussi entre le clair et l'obscur. T'as des contrastes importants. Donc c'est un film qui... Voilà, va parler de sorcellerie, mais aussi du rapport à la féminité, évidemment.
De toute façon, c'est difficile de séparer les deux, on va pas se leurrer.
La figure de la sorcière. Sur le froussomètre, tu le mets où?
Ouais, il m'a quand même foutu très mal à l'aise. Je mettrais un 6-7 quand même.
Ah ouais?
Ouais. Moi, il m'avait... j'ai encore en tête des images, mais en fait...
Le design sonore, j'ai pas parlé de la musique...
Ouais.
C'est des chants désincarnés, des... Ça, c'est des bruits.
Moi, j'ai trouvé que c'était un peu too much, ça.
Ah, moi, j'adore.
Ça m'a un poil sorti du truc.
Peur.
Mais moi, ce qui m'a intéressé surtout vis-à-vis de la peur dans ce film-là, c'est que elle ressortait de choses inhabituelles. J'ai en tête, par exemple, un très rapide enchaînement de séquences où tu comprends qu'il commence à manquer de nourriture. Et ensuite, tu as un plan fixe. Sur la maison, tout est gris, il y a un peu de brouillard, tout est fade, tout est triste. Tu vois, cette maison en plan fixe, avec des perspectives assez écrasées, d'ailleurs. Et normalement, devant la maison, ils faisaient pousser, je crois, du maïs, ou du blé.
Ouais, bref, en tout cas, quelque chose.
Et là, tu vois qu'en fait, la récolte est morte. Elle est un peu noirâtre, machin et tout. Et c'est tout. Et en fait, moi, ce tout petit enchaînement de séquences, il m'a vraiment marqué parce qu'il m'a terrifié. Je me suis dit, merde.
Ils sont dans la merde.
Putain, merde, comment ils vont faire? Déjà, ils avaient plein de galères, et maintenant, en plus de ça, la récolte est morte. Et vraiment, j'ai jamais vu un film qui faisait ressentir de la peur provenant de... Zut. La récolte
bouffé.
Est morte. Et genre, vraiment, c'était... Non, j'ai adoré. Donc oui, moi, il m'a foutu très mal à l'aise. La pression religieuse, je trouvais un élément, en tout cas pour moi...
Très bien représenté.
Extrêmement marquant. Vraiment, ça te fout la pression du début à la fin. Donc, petit 6.
Moi, je lui ai mis un 3.
Ah ouais.
Genre, peut-être plus 4, parce que pour le coup, j'ai eu peur sur le moment. Mais ça m'a pas hanté et ça m'a pas fait super peur non plus.
Ok.
Ça m'a plus amusé. Mais je pense que c'est aussi le thème de la sorcellerie aussi, moi, qui me fait pas peur. Du tout.
Moi non plus.
D'être. Possédé par le diable, je suis en mode yes, please. Tu vois, donnez-moi.
T'as vu l'exorciste?
Alors,
elle a pas l'air de passer un bon moment, la gamine.
Pour le coup, dans The Witch, je préfère largement être possédé par le diable que d'être dans cette maison avec ces gens, quoi. Je préfère largement être une sorcière et.
Ouais, après, il faudra que tu lises le Maius Maleficum pour savoir comment devenir une sorcière,
t'inquiète,
ça n'a pas l'air marrant.
J'ai déjà lu. Bon, on va passer au dernier film de cette rubrique, parce qu'on enregistre déjà depuis beaucoup trop longtemps, et ça va être un problème.
Ça fait combien de temps, là?
1h30.
Ah ouais. Donc, tu feras un peu de montage.
Je vais faire du montage. Donc, on va vous parler de The Lighthouse, donc le deuxième film de Robert Eggers. Je vois que t'es déjà morte de rire avant de commencer à en parler. Donc c'est un thriller psychologique sorti en 2019 avec Robert Pattinson et un de mes acteurs préférés, Willem Dafoe. Je l'aime tellement.
Willem.
L'écriture de ce film s'est inspirée de faits réels, d'après le réalisateur Robert Eggers. Elle s'inspire des événements survenus au phare de Smalls dans le Pembrokeshire, au Pays de Galles, en 1801. Voilà, vous serez ravis de l'apprendre.
Okay.
Et l'histoire, je vais la résumer très vite fait, c'est juste deux gardiens de phare. coincés ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je me rappelle, on a vu ce film pendant le confinement, tous les deux. Ah mais non, je suis con, il est sorti avant. Mais j'avais l'impression que c'était pendant le confinement.
On l'a vu ensemble pendant le confinement, hein.
Oui, on l'a peut-être vu après, ouais.
Ouais.
Mais ouais.
Non, parce que histoire de voilà, on était déjà coincés dans notre appartement. Autant en plus se farcir l'histoire de gens coincés dans un enfer.
Dans un phare, ouais.
Dans un enfer, ça s'appelle un enfer, j'ai appris ça.
Ah.
Les gardiens de phare ont des classifications en fonction des phares. Et là, je crois qu'on est dans un enfer.
D'accord.
Donc, c'est un phare où il n'y a quasiment pas de terre et qui est vraiment au milieu de nulle part avec une mer très agitée. Bref, on s'en fiche. Sachez que ça s'appelle un enfer.
En gros, ça va être un film de, encore une fois, de claustrophobe, d'isolation, de, ils sont tous les deux là et c'est terrible parce qu'au moment où ils sont censés être relevés, donc je sais pas combien de temps ils doivent rester, on va dire 6 mois, 1 an, je sais plus exactement, et ben en fait ils sont coincés et il n'y a plus d'alcool. Et parce qu'au début ils se bourrent la gueule quoi, pour, tu vois, et ils vont se retrouver tous les deux en tête à tête. Alors ce qu'on peut dire de ce film déjà, c'est que d'un point de vue de forme, c'est très particulier, ça a été tourné sur du 35mm, c'est du noir et blanc, c'est des caméras argentiques qui ont un grain, le ratio c'est un 1:19, qu'on appelle le movie tone et qui a été utilisé par l'industrie du cinéma pendant sa transition vers le son entre 1926 et 1932. Et en fait, le directeur de la photographie avait déterminé que ce format d'image donnait aux séquences justement ce sentiment d'enfermement et qu'il amplifiait l'isolement des personnages dans l'environnement. Donc d'un point de vue forme filmique, c'est quand même très à part.
Ah, c'est
de
particulier.
Voir Robert Pattinson et Willem Dafoe qui ont des accents improbable.
Improbable, mais plutôt pas mal.
Alors,
plutôt
incroyable. Ouais. En plus, ils sont tous les deux. C'est tous les deux des acteurs unhinged. C'est de, tous les deux des acteurs chaotiques.
Ouais, de ouf.
Genre, c'est grand guignol, tu vois. Ils font des trucs avec leur gueule.
Bah, Willem Dafoe, enfin.
Et Pattinson aussi, pour le coup.
Pattinson aussi. Qui, par contre, moi, ce film m'a permis de découvrir Pattinson. Parce que Pattinson, je le connaissais dans
Twilight,
hein, oh, il a fait
plein de choses.
Et en fait, je l'ai vu là-dedans et je me suis dit, putain, mais en fait, Pattinson.
Ah, il se débrouille bien.
Il est vachement bon, hein.
Bah ouais.
Il est vachement bon.
Bah, c'est juste que Twilight, il a subi, quoi, sa vie pendant un moment, quoi.
Ouais, je suis pas sûr qu'avec l'argent que ça lui ait rapporté, il ait tant subi que ça, mais oui.
franchement, vu le harcèlement qu'il s'est pris, ça a dû être extrêmement violent.
Ah ouais, peut-être.
Mais bon, on s'en fout.
Bon, bref.
Ouais, du coup, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce film-là, sur The Lighthouse ?
Je vais être brutalement honnête. Hein.
Vas-y.
Brutalement honnête. Il m'a fait rire.
Ah bah oui.
Il m'a fait rire du début.
Mais c'est horrible, parce qu'il est censé faire peur.
Il est censé
mais
faire peur.
Je crois que c'est l'accent.
C'est complètement raté.
Le jeu des acteurs. Alors après, par contre, c'est... Alors c'est un film, pour le coup, qui n'est pas tendre avec le spectateur. Hein. On retrouve hein, cette idée d'austérité.
Ah oui.
C'est extrêmement expérimental.
Beaucoup trop.
Quand même. Enfin, t'as des séquences qui n'ont ni qu'une tête.
Voilà. Déjà, il m'a fait rire. Il m'a jamais fait peur. Il m'a toujours fait rire.
Mais oui, mais est-ce qu'il te fait rire parce que c'est Willem Dafoe et Robert Pattinson qui parlent avec leur accent et leur moustache chelou, tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait rire tant que ça, tu vois, dans ce film?
En fait, ce qui m'a fait trop rire, c'est que c'est too much.
Mm.
Tout le temps. Et en fait... Vraiment, on dirait une espèce de délire psychédélique ou de bad trip chelou. Je sais qu'il est censé te faire peur. On voit qu'il essaie de te faire peur, mais vraiment, ça marche pas. Parce que tu as, dans le même enchaînement de séquences, Pattinson et Dafoe complètement bourrés, en train de se proclamer leur amour. En fait, les deux, quand ils sont sobres, se détestent.
Ouais.
Ils peuvent pas se piffer. Par contre, quand ils sont bourrés le soir, ils deviennent les meilleurs amis du monde.
Ah, bon. C'est un petit peu homoérotique, même.
C'est sacrément homoérotique même. Donc déjà, bah voilà, t'as ça. T'as Pattinson, Dafoe, qui sont bourrés dans une séquence homoérotique. Après, paf, ça coupe le lendemain. Il y a Robert Pattinson qui va vider un pot de chambre dans le vent, qui littéralement se prend le contenu du pot de chambre, je vous laisse deviner ce que c'est, dans la gueule. Et puis, deux minutes après, t'as Willem Dafoe, Pattinson, je ne sais plus, qui est devant une espèce de cadavre de sirène qui ressemble vachement à une vulve. Le tout... dans effectivement un format d'image bizarre, en noir et blanc. Non.
Bah, je pense qu'il a. Robert Eggers, ça a un peu ce côté. Un... Bah, alors, pour le coup, comme Ari Aster, de j'en ai rien à foutre de vous tous, je vais juste m'amuser.
Ah, mais c'est pour ça qu'il est. C'est pour ça qu'il est trop bien, ce film. Mais vraiment, par contre, il... Bon, il m'a jamais fait peur, il m'a juste fait rire. Et il y a certainement un sous-texte, un truc, mais je m'en fous. Moi, je voulais voir Pattinson et Dafoe Unhinged
ouais.
faire n'importe
ah
quoi.
Ah bah, là, c'est bon.
Et bah, de ce point de vue-là, ça a vachement bien marché. Et pourtant, j'aime bien les films un petit peu contemplatifs, un petit peu austères. Je veux dire, j'ai regardé une trentaine de fois Stalker, qui est quand même 3h30 de Russes dans les années 80, 70, pardon,
ouais.
qui font de la randonnée, quoi. Bon, j'ai adoré.
C'est expérimental. Pour le coup, c'est culte, ce film.
Ouais, ouais, ouais. Mais oui, je l'ai trouvé très drôle. Et puis en plus de ça, ça a donné naissance, et ça, je pense que c'est assez important. Lighthouse a donné naissance à un de mes reaction memes préférés, où tu vois Willem Dafoe avec ses vêtements de pluie, pris un petit peu en contrebas, en contre-plongée, pardon, et qui regarde le spectateur en lui disant Look at you, posting cringe. Et ça me fait trop rire.
Le cotier.
Le cotier, posting cringe. Donc, regarde-toi à poster des trucs malaisants, quoi. Bon, enfin, bref. Et donc, ouais, impossible pour moi de parler d'angoisse ou de malaise, non, parce que j'ai rigolé du début à la fin.
Moi, j'ai pas rigolé du début à la fin, je me suis pas mal ennuyée. Mais ouais. J'ai pas eu peur. Mais j'ai aussi un peu ri, mais pour le coup, je suis contente de l'avoir vu. Visuellement, c'était vraiment très beau.
Mais c'est un trip, c'est un trip.
Voilà, c'est quand même... Tu vois, je me suis questionnée de est-ce que je le mets dans le thème, parce que c'est...
Bah, moi, j'allais te poser la question, pourquoi est-ce que tu le mets?
Bah, parce qu'il y a quand même les mêmes thèmes d'isolement, d'enfermement, ouais. D'horreur humaine, de perte de l'identité, de sombrer oui. dans la folie.
Oui, clairement.
Tout ça, c'est quand même assez flippant. Du body horror, pas tellement dans mes souvenirs, mais ça, pour moi, ça peut, enfin, tu vois, vu de l'extérieur, ça pourrait rentrer dans ces cases-là, quoi. Avec, encore une fois, la forme filmique et la technicité qui... Quoi ?
Ah, mais oui, ça pourrait rentrer dans ces cases-là, si t'avais pas Pattinson et Dafoe qui font n'importe quoi devant la caméra, je suis désolé, c'est ça le truc. Oui, je vois ce que tu veux dire, ça rentre dans tous les codes.
Oui.
Mais non.
Non. Très bien. Mais non.
Pardon, ouais. Alors, je suis pas parti très loin dans mon analyse du film, hein, je dois avouer, parce que j'ai pas envie de l'analyser.
Non.
Voilà, j'ai juste Willem Dafoe qui.
Poster
qui voilà, qui me dit que c'est pas bien de poster du cringe, quoi. Voilà.
Bon, bah, sur ce, on va s'arrêter là.
Ouais.
Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup pour toutes tes interventions. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez et qu'on n'a pas été trop long.
Ouais, mais ça, je vais m'amuser au montage.
Ouais.
Et j'espère que, en tout cas, si vous avez des retours, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.
Salut.